Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et la bonne année aux auditeurs des Témoins de l'Invisible. Une fois encore, ce sera le cas tout au long de cette année, nous avons rendez-vous avec Joël Ménard, que normalement je ne devrais plus présenter, mais enfin tout de même, j'ai quand même vous le présenter pour le cas où vous viendriez simplement de nous rejoindre. Joël Ménard est ce qu'on appelle un ufologue, il étudie les phénomènes aérospatiaux un peu étranges, les ovnis, objets volants non identifiés. Depuis près de 50 ans, il est un des vétérans de cette recherche. Il a par ailleurs dirigé pendant de longues années la revue Lumière dans la nuit, revue légendaire. Et puis surtout, Joël, vous avez pendant 50 ans enquêté sur le terrain. Vous êtes allé à la rencontre de tous ceux qui, depuis 50 ans, voient des choses qu'ils ne devraient peut-être pas voir. Joël, nous avons décidé ensemble de retracer l'histoire des apparitions d'OVNI depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours et nous en sommes à la période de la Seconde Guerre mondiale car on voyait des choses étranges pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mois dernier, vous nous avez parlé de cette fameuse bataille de Los Angeles en 1942. Je voudrais qu'on reprenne le cours de cette aventure ufologique pendant la Seconde Guerre mondiale avec le cas très étrange de Cap Girardeau. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce qui s'est passé à Cap Girardeau?
Oui, alors, tout d'abord, en préambule, on peut peut-être rappeler en deux mots l'affaire de Los Angeles dans la nuit du 24 au 25 février 1942. C'est un cas d'une importance extrême, étant donné qu'il y a eu un nombre de témoins colossal. Les témoins, c'était tout simplement les habitants de Los Angeles, qui était déjà une mégapole géante à l'époque. Des objets sont apparus, un ou des objets, ce point n'est pas très clair. Disons un objet, pour simplifier, est apparu en début de nuit, enfin vers 1h du matin, dans le ciel de la ville qui était en état d'alerte, puisque le Japon avait lancé son attaque tous azimuts dans le Pacifique et que les Américains, surtout ceux qui habitaient sur la côte ouest, redoutaient un débarquement des Japonais. Donc la ville était en blackout, c'est-à-dire que toutes les lumières qui pouvaient être éteintes étaient éteintes et on redoutait une attaque. Bon, un objet lumineux est arrivé et s'est promené au-dessus de la ville pendant plus d'une heure. La DCA a tiré 1430 obus sur cet objet. Aucune bombe n'est tombée au sol. Et il y a eu simplement des dégâts provoqués par des retombées d'obus non explosés. Alors ces dégâts ont endommagé des bâtiments. Et 6 personnes ont perdu la vie cette nuit-là. 3 par crise cardiaque, dont la cause a été attribuée au vacarme de la canonnade, et 3 autres par des accidents de voiture, qui étaient bien obligés de se déplacer, mais qui ne pouvaient le faire que phare éteint dans une ville éteinte, d'où des accidents de la route. L'un des points importants de cette affaire est le fait que le général Marshall, George Marshall, qui allait être 6 ans plus tard le père du plan Marshall, que tout le monde connaît, était présent sur place. Il a rédigé à l'intention du président un rapport qui est disponible. On peut trouver toutes les informations nécessaires sur cette monstrueuse affaire. Par exemple, dans le livre de Terence Sword, qui s'appelle The Battle of Los Angeles, la bataille de Los Angeles. C'est un livre qui a eu évidemment très peu d'écho en France, étant donné que personne, pas grand monde, n'est à l'écoute de ce genre d'informations. Mais les gens qui pourront se procurer le livre de Terence Sword en sont beaucoup plus sur cette affaire. Affaire énorme, fantastique, avec je ne sais combien de milliers de témoins, des documents officiels, des articles dans la presse locale du lendemain, et notamment une photo prise de nuit en pause qui montre les faisceaux des projecteurs de DCA qui convergent vers une masse lumineuse. Cette photo a été publiée dans le Los Angeles Times, peut-être du 26 février 1942. Mais il y a des articles qui corroborent l'information dans les autres journaux de l'époque. Et puis il y a le rapport du général Marshall qui a été rendu public il y a quelques années. Voilà, cette histoire est absolument fantastique. Mais elle est bien attestée. Mais à l'époque, les Américains avaient de gros soucis, évidemment, avec les Japonais. Et dans les jours qui ont suivi, cette info s'est noyée dans le brouhaha, puisqu'il y avait une actualité beaucoup plus préoccupante.
Merci.
Néanmoins, ça reste un cas extraordinairement important. Alors, ça, c'était en février 42, 25 février 42. Il est bon, je crois, en général, de suivre l'ordre chronologique des événements, mais parfois, ça pose des petits problèmes. En tout cas, moi, ça m'en pose un. Dois-je vous parler maintenant de ce qui s'est passé un peu plus d'un an auparavant dans le Missouri? Ce qui me gêne, c'est pas de faire un retour en arrière dans la chronologie, c'est le fait que ce qui s'est apparemment, parce que là il faut être prudent, passé à Cape Girardeau dans le Missouri, probablement en avril 41, en tout cas avant le tout début de mai 41, c'est une histoire qui est apparemment, si elle est authentique, extrêmement riche d'implications. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent, ou bien on examine les événements de la Seconde Guerre mondiale, je parle des observations d'OVNI, bien entendu, dans l'ordre chronologique, et puis après on sera obligé de faire un monstrueux retour en arrière. Ou bien on en parle tout de suite. Alors j'ai choisi la deuxième option. Attention, cette histoire de Cape Girardeau, Missouri, si elle est authentique, et on peut imaginer qu'elle le soit, est extrêmement riche de conséquences. Alors, voilà cette histoire. Il y avait un éminent ufologue américain qui s'appelait Leonard Stringfield, qui nous a quittés il y a une quinzaine d'années. Et Stringfield, qui était un des enquêteurs de la première heure, s'est progressivement spécialisé sur les histoires dites de crash d'OVNI, et même de crash d'OVNI avec récupération d'épaves. Alors c'est un sujet qui est largement ignoré en France, et c'est bien dommage. C'est un sujet délicat. Dans ce domaine-là, dans le domaine des crashs et récupérations, que par exemple dans l'histoire de Los Angeles en février 1942, très souvent les informations nous sont parvenues par la petite porte, par une personne ou par un petit groupe de personnes. Dans le meilleur des cas, par plusieurs canaux qui se confirment mutuellement. Alors, tout a commencé quand Leonard Stringfield, cet honorable enquêteur infatigable et apprécié de tout le monde, a reçu un courrier d'une dame qui s'appelait Charlotte Mann. Charlotte Mann a donc contacté par courrier Stringfield pour lui raconter ce qu'elle avait appris de nombreuses années auparavant. Plus exactement, je vais pas commencer par vous raconter l'aventure du révérend Huffman. Il faut d'abord parler de la manière dont l'information est apparue. Charlotte Mann, la dame qui s'est confiée par courrier à Leonard Stringfield, puis à d'autres enquêteurs par la suite, Robert Wood et son fils Ryan Wood, qui sont des scientifiques de très bon niveau. Charlotte Mann a raconté l'histoire suivante. Au cours de son enfance, à plusieurs reprises, elle a entendu des bribes de récits entre son père et son oncle, qui faisaient état d'un événement étrange qui s'était produit alors qu'elle-même était toute petite. Je ne sais même pas si elle était née d'ailleurs à l'époque. Donc elle a entendu parler de choses bizarres, le truc qui s'était écrasé, de petits bonhommes. Et son grand-père était mêlé à l'histoire. En 1984, la grand-mère de Charlotte Mann, qui s'appelait Floy Huffman, et était gravement atteinte d'un cancer. Quelques jours avant sa mort, avant la mort de Floy Huffman, Charlotte a voulu en savoir plus et elle a demandé à sa grand-mère, comprenant l'urgence de la situation, de lui dire tout ce qu'elle savait. Floy Huffman avait promis à son défunt mari de ne rien révéler, donc ça n'a pas été facile pour Charlotte. Mais elle a insisté auprès de sa grand-mère, insisté. Et au cours de plusieurs jours consécutifs, Floy a raconté à sa petite fille Charlotte ce dont elle se souvenait. Alors voilà l'histoire. Un soir, probablement en avril 41, en tout cas pas après le début de mai. Ça, on sait que c'est pas après le début de mai, parce qu'il y a eu une naissance dans la famille le 3 ou le 4 mai, et c'était avant. Donc, ça peut être en avril, peut-être fin mars 41. Un soir, vers 19h ou 19h30, on a téléphoné au grand-père de Charlotte, le révérend Huffman, en lui disant qu'un avion s'était écrasé, qu'il y avait des victimes, et on lui demandait de venir prêter les derniers sacrements pour les victimes du crash. Donc, le révérend Huffman s'est rendu sur les lieux de l'accident, à une vingtaine de kilomètres environ, au nord-nord-ouest de Cape Girardeau, dans un endroit dont le nom n'est pas précisé, mais on sait que c'était à environ 10 à 15 miles de Cape Girardeau, ce qui fait grosso modo une vingtaine de kilomètres. Donc, le révérend Huffman est arrivé sur les lieux. Il a vu, un peu à l'écart de la route, un feu qui se développait dans un champ, je n'ai pas plus de précision. On l'a emmené sur place. Alors, je suppose que c'était des pompiers. Mais en fait, j'en ai pas la certitude. C'est un des nombreux détails qui restent à préciser, et difficile à préciser sur cette affaire. Donc, il arrive sur place, il voit quelque chose qui brûle, quelque chose qui ressemble pas tellement à un avion d'ailleurs, et même pas du tout, parce que c'était rond, mais il y avait un incendie. La chose était partiellement détruite. Il y avait là des pompiers, plusieurs photographes, et puis des policiers locaux. Bon, Huffman, son travail consistait à donner les derniers sacrements aux victimes. Il y avait trois victimes, deux petits personnages qui se trouvaient à peu de distance de l'objet, et un troisième qui gisait un petit peu plus loin. Donc Huffman a fait ce qu'il avait à faire. On imagine l'émoi qu'il a pu ressentir. Toujours d'après ce que Floyd Huffman, sur son lit de mort, a raconté à sa petite fille, ces trois personnages étaient de petite taille, de l'ordre de 1m20. Ils étaient vêtus de combinaisons brillantes. Et ils avaient des mains, peut-être à trois doigts. Mais ce détail n'est pas affirmé catégoriquement. Hein. C'était peut-être trois doigts, peut-être quatre. Donc, Huffman donne les derniers sacrements aux trois victimes. Et puis les militaires arrivent sur place et bouclent la zone, prennent par petits groupes les personnes présentes et leur donnent l'ordre de ne rien révéler de ce qu'ils viennent de voir. Malgré ça, un des photographes a transmis, je ne sais pas exactement à quelle date ni comment, probablement pas le soir même, puisque quand on faisait des photos à l'époque, il fallait d'abord les développer et faire des tirages. Enfin, toujours est-il que le révérend Huffman a eu communication d'une photo d'un de ses personnages, qui était maintenu par deux des pompiers présents sur place. Le révérend Huffman ne s'attarde pas trop sur les lieux, parce que les militaires invitent les gens à ne confier leur expérience à personne, et puis à ne pas s'attarder sur place. Donc Huffman rentre chez lui, ayant promis aux militaires de ne rien dire. Mais quand il arrive à la maison, c'est plus fort que lui, il est trop ému par ce qu'il vient de voir. Ces trois petits cadavres qui lui paraissaient non humains, il raconte ce qu'il vient de vivre à son épouse, Floyd, et à deux ou peut-être trois autres personnes de son entourage. Voilà l'incroyable histoire de Cape Girardeau. Alors, une histoire comme ça, il faut bien comprendre que ça diffère profondément d'un cas comme celui de Los Angeles le 25 février de l'année suivante. Là, il n'y a pas des milliers de témoins, des articles de journaux, des dégâts au sol et un rapport officiel. Il n'y a rien de tout ça. Il y a une dame, Charlotte Mann, qui recueille en 84 les souvenirs de sa grand-mère sur le lit de mort de celle-ci. On ne peut pas mettre deux événements de Cape Girardeau et de Los Angeles au même niveau dans la valeur des témoignages, autant il n'y a aucune raison de douter de l'authenticité de l'événement de Los Angeles, puisque tous les documents qu'on peut souhaiter, ou à peu près tous ceux qu'on peut souhaiter, sont disponibles, et connus d'ailleurs depuis pas mal d'années. Autant dans le cas de Cape Girardeau, c'est totalement différent. On a le récit d'une vieille dame à sa petite fille, qui par ailleurs avait entendu parler de l'affaire dans le cadre familial.
Mais c'est bien souvent le cas dans les histoires ufologiques. Il y a souvent peu de témoins, 1, 2, 3, parfois davantage, mais souvent il n'y a que quelques témoins. Est-ce qu'on en sait davantage par contre sur la personnalité de Charlotte Mann?
Alors, moi personnellement, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai sous les yeux la photo d'une dame. Une dame blonde, souriante, très souriante, c'est un visage qui me semble inspirer confiance, mais enfin, ne tombons pas dans ce genre de considération. Bon, quand la photo a été prise, Charlotte Mann a l'air parfaitement épanouie et heureuse. Il y a aussi la photo de son grand-père, le révérend William Huffman, un homme d'allure plus sévère, disons. Sévère, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, quelqu'un de très sérieux. D'après l'article publié par Ryan Wood dans UFO Journal en novembre 2001, William Huffman était un homme précieux pour cette communauté baptiste, parce qu'il était très fort pour recruter des adhérents et pour gérer les fonds. Bon, à part ça, c'était sans doute un homme très sérieux, mais je n'en sais pas plus. Ouais.
Leonard Stringfield, qui est un enquêteur chevronné, je crois, a fait une carrière dans les renseignements, je crois, hein, c'est ça?
Oui, je crois, au début. Ouais. Et puis après, enfin au début... quand il était jeune. Et puis après, il s'est plutôt retrouvé en butte au milieu du renseignement américain, oui, parce qu'il a fait preuve pendant plusieurs décennies d'une curiosité que certains jugeraient malsaine à propos des observations d'OVNI. Oui. Mais il a la réputation d'un excellent enquêteur. Il a publié divers documents concernant les crashs avec récupération d'OVNI. Alors c'est un sujet qui peut paraître fou, qui ne peut que paraître fou à toutes les personnes sérieuses. Quand on se penche sur les publications relatives à ça, on est inévitablement plus mesuré. Apparemment, Stringfield a fait un travail très sérieux. Moi, au cours de ma vie ufologique, j'ai eu une très nette préférence pour des informations plus complètement fiables. Les éléments nombreux, très nombreux, qu'a recueilli Stringfield concerne des événements fantastiques, incroyables, pas simplement des histoires d'OVNI comme on en rencontre par milliers, mais des histoires de crash d'OVNI, avec les conséquences que ça a pu avoir quand ces objets ont été récupérés. Bon, tout ça m'a paru... là, je vous donne mon opinion personnelle, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Elle n'est peut-être pas très judicieuse, mais j'ai souvent été méfiant à l'égard de toutes les histoires que publiait Stringfield, parce que il a recueilli, comme par hasard, un nombre incroyable d'événements de ce genre, de témoignages sur des événements de ce genre. Alors, on peut être tenté de se dire, enfin, ça a été mon cas, on peut être tenté de se dire, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui recueille un grand nombre de témoignages sur des crashs d'ovnis, alors que moi, j'en ai pas recueilli un seul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est hautement suspect. C'est probablement bidon. Alors, on peut raisonner de cette façon. Les résultats sont pas garantis.
Joël, on arrive au terme de cette émission. Donc on a parlé de ce cas de Cape Girardeau sur lequel il faut rester prudent. Dans 4 semaines, on reviendra sur des cas beaucoup plus et beaucoup mieux étayés. Il s'agit des fameux Foo Fighters. On laisse les gens dans le flou jusqu'au mois prochain. Et on vous dira, chers auditeurs et auditrices, tout ce qu'il faut savoir sur les Foo Fighters. C'était encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Joël, à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.